Aujourd'hui, nous allons lire ensemble le chapitre 59 du prophète Ésaïe. Et dans ce chapitre, nous allons voir tout un processus spirituel qui a été vrai pour Israël du temps du prophète Ésaïe et dans les siècles qui ont suivi, et tout aussi vrai pour chaque individu aujourd'hui. Donc nous allons le lire petit à petit, ce processus va se révéler petit à petit, et nous commençons avec les versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Là, nous sommes dans un principe biblique fondamental. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas parce qu'il est beaucoup plus grand que nous, ce n'est pas parce que nous sommes des êtres finis, mais c'est le péché qui nous sépare d'avec Dieu. On peut faire remonter cela jusqu'au début de la Bible. Nous voyons dans les premiers chapitres de la Genèse comment l'être humain s'est détourné de Dieu en pensant pouvoir décider par lui-même ce qu'il devait faire ou ce qu'il ne devait pas faire. Et nous lisons à la fin du chapitre 3 de la Genèse que l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Et après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden, des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc il est séparé et ces chérubins l'empêchent de revenir. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que quand plus tard Israël a fabriqué la tente du tabernacle et après le temple à Jérusalem, c'est que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, comportait des images de chérubins. Nous lisons par exemple dans Exode 26 et les versets 31, 33. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin, retors. Il sera fait selon l'art du brodeur, et on les représentera des chérubins. Et verset 33, tu mettras la voile sous les agrafes, et c'est là derrière la voile que tu feras pénétrer l'arche du témoignage, et la voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et vous savez peut-être que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, n'avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint qu'une seule fois par an, avec le sang d'animaux sacrifiés, parce que c'était là où résidait la présence de Dieu, et il fallait que l'on s'approche de lui uniquement par des sacrifices de sang. Ce même principe de la séparation se trouve dans le Nouveau Testament, avec un verset qui vient presque à la fin de tout un développement de l'apôtre Paul, dans les premiers chapitres de sa lettre aux Romains. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 2, nous voyons les choses sous un autre angle. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, et nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, il dit, vous étiez morts. Et cette mort est évoquée dans le livre de la Genèse. Hein. Si vous mangez de cet arbre, certainement vous mourrez. Et ce qui était le cas pour Adam et Ève, pas immédiatement, mais tout de suite, il y avait la mort spirituelle qui s'en est suivie, parce qu'ils étaient coupés de la source de la vie. Quel éternel. D'ailleurs, cette séparation explique que cela n'est pas étonnant que les gens se déclarent athées, car ils sont séparés de Dieu, ils ne connaissent pas. Le philosophe Blaise Pascal a un beau texte où il a trouvé une métaphore très intéressante pour exprimer ceci. Donc voilà, je lis deux phrases de Blaise Pascal. Il parle d'un bras, par exemple, amputé, et dit « Le membre séparé, ne voyant plus le corps auquel il appartient, n'est plus qu'un être périssant et mourant. Cependant, il croit être un tout. Et ne se voyant point de corps dont il dépend, il croit ne dépendre que de soi, et veut se faire centre et corps lui-même. » Donc, quand on est séparé de Dieu, on ne voit plus cela, on ne voit plus que soi-même, et on devient donc, dans ce sens, le centre de l'univers. Donc, ayant parlé de ces péchés qui nous séparent de Dieu, les versets 3 et 8 d'Ésaïe 59 constituent un sévère réquisitoire contre le péché. C'est une situation très grave. Donc, je vais lire ces versets 3 à 8. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide, ils disent des faussetés, ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Ils font éclore des œufs de vipère, tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Si l'on en creuse un, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit, et ils ne peuvent se couvrir du fruit de leur travail. Ils ne commettent que l'injustice. Leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent mal et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction, et le malheur marque leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. C'est une situation, comme j'ai dit, très grave. Dans l'Épître aux Galates, Paul l'appelle la malédiction de Dieu à cause du péché. Et les versets 7 et 8 d'Ésaïe 59 sont justement cités dans Romains chapitre 3, que nous avions lu tout à l'heure. Ils font partie de l'argumentation de Paul avant d'arriver à la conclusion que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les versets 7 et 8 d'Ésaïe 59 se trouvent dans le chapitre 3 des Romains, verset 15. Leurs pieds courent pour verser de sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est vrai que là, on est dans une situation bien différente de ce que l'on pense autour de nous. On entend souvent que l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Ou bien, on dit de quelqu'un, même quelqu'un qui n'est pas toujours très juste, mais il a un bon fond, mais même s'il fait du mal. En fait, la doctrine biblique est tout le contraire. Il a un mauvais fond, mais par la grâce de Dieu, il peut faire le bien. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Les paroles de Jésus vont également dans ce sens, dans Matthieu 7, verset 11, où il dit, comme si c'était une vérité connue par tous, « Si donc, méchant quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Donc la Bible parle de cette omniprésence du péché. En théologie, on parle de la corruption totale ou de la dépravation totale pour dire en fait que le péché est universel. Tous ont péché, à l'exception de Jésus, bien sûr. Le péché touche tous les aspects de la nature humaine. Bien sûr, cette doctrine de la corruption totale ne signifie pas que toute trace de rectitude morale a disparu de l'homme. Ça ne signifie pas non plus que l'homme est aussi corrompu qu'il pourrait l'être. La grâce commune est là, l'être humain est créé à l'image de Dieu. Il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et on peut connaître de moments de générosité, de solidarité. La Bible ne dit pas le contraire. Mais la Bible est quand même très claire que le péché tient de près à, se tient de près à chacun, nous touche le champ d'application, en fait, si on veut, c'est tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas le degré de corruption, mais cette corruption est totale et irréversible sans l'aide de Dieu. Le prophète Jérémie a dit la même chose, chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Ou la version second classique. Il est méchant. Qui peut le connaître? Et il est vrai que la psychologie moderne cherche à comprendre les nombreux mécanismes du mal, la manière dont cela s'exprime dans la vie de chacun, car nous sommes tous concernés. Les mécanismes sont nombreux parce que le mal s'insère un peu partout, plus qu'on ne pense. On est beaucoup plus égoïste, beaucoup plus centré sur nous-mêmes qu'on ose l'admettre la plupart du temps. Donc voilà, les versets 3 à 8, un réquisitoire contre le péché. Les versets 9 et 11 évoquent maintenant les conséquences du péché. Donc on va les lire. Ésaïe 59, verset 11. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres. La clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours, nous gémissons sans cesse comme des colombes. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là. Nous attendions le salut, mais il est loin de nous. En fait, d'abord, les gens ne reconnaissent pas forcément leur péché, mais ils voient les conséquences du péché. Les conséquences, c'est quelque chose de déchirant. C'est comme si on marche dans les ténèbres, on voit plus ce qui est bien, ce qui est mal, on pleure, on gémit comme des colombes, on grogne comme des ours, et nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. C'est absolument extraordinaire de constater que malgré tous les bons efforts des personnes, le mal s'y insère inexorablement. Je pense en ce moment, dans cette période de pandémie, qu'il y a des gens qui font du marché noir avec les masques dont ont besoin les soignants, par exemple. Donc le mal s'y insère presque inexorablement. Mais il y a quand même un petit bout d'espoir, parce que nous lisons également que nous attendions un juste jugement et quelque part on crie à Dieu et on espère qu'il y aura un juste jugement. On va revenir à cela. Parce que à partir du verset 12, il y a le début donc de la réponse. Il ne s'agit plus de dire « Je reconnais les conséquences du péché, mais je dois reconnaître moi-même que je suis pécheur. » Donc je lis les versets 12 jusqu'à la première partie du verset 15. On pourrait donner le titre « La repentance » à cette section. « Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous et nous reconnaissons nos fautes. Nous avons eu un comportement coupable avant l'Éternel, nous l'avons trahi, nous nous sommes détournés de notre Dieu, nous avons parlé d'exploitation et révolte, nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères, si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare, et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. Comme je disais, il ne s'agissait pas simplement de reconnaître les conséquences du péché, mais de comprendre la part que chacun prend, la mesure dans laquelle chacun participe à ce mal qui crée ses conséquences. En fait, écoutez les gens autour de vous, ou écoutez votre propre cœur. On a vite fait de critiquer, de voir des injustices, mais il est beaucoup plus rare que l'on reconnaisse ses propres fautes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, le prophète Ésaïe, tout comme la dernière partie, s'identifie au peuple. Il dit bien « nos transgressions, nos péchés, nos fautes ». Et dans ce verset 12 d'ailleurs, il y a plusieurs des mots très usités dans l'Ancien Testament pour désigner le péché, transgression, faute, révolte, bon, ça c'est dans la version du semeur. Nous avons donc vraiment un comportement coupable. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel. Verset 13. Nous nous sommes détournés de notre Dieu. C'est ce qu'on a vu dans la Genèse. On préfère vivre sa propre vie sans avoir des comptes à rendre. Nous avons parlé exploitation et révolte. Et pas simplement pour les dénoncer. Chacun de nous peut y participer de sa façon. Nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères. Et c'est Jésus qui le dit, le mal vient du cœur, ce n'est pas d'abord le comportement. Dans le cœur de l'homme, il y a cette méchanceté, cet égocentrisme, cet orgueil. Nous l'avons vu à l'étude biblique du mercredi soir, comment à Ninive, les Assyriens disaient, « Moi, il n'y a rien que moi, je suis au centre de tout, il n'y a que moi qui compte. » Et là, il y a quand même une vraie repentance, parce que le prophète s'identifie à tout cela, il sait que lui-même n'est pas forcément parfait, loin de là, et il montre qu'il est absolument nécessaire de reconnaître sa propre responsabilité. Et c'est à ce moment-là, à partir de la deuxième partie du verset 15, que nous voyons que Dieu intervient. Donc c'est la première mention de son action depuis le début du chapitre. Alors, je vais lire les versets 15, la deuxième partie du verset 15, jusqu'au verset 18. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il payera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il payera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. Donc, la première chose à se dire, c'est que Dieu est au courant. Cette première phrase que j'ai lue au milieu du verset 15, « L'Éternel voit avec indignation ». Et par la suite de ce petit texte que nous venons de lire, le prophète Ésaïe imagine Dieu comme un guerrier qui se ceint pour intervenir. Il met sa cuirasse, il met son casque, il met des vêtements de guerre en quelque sorte pour intervenir et pour juger, parce qu'on parle à plusieurs reprises de sa justice. Entre parenthèses, cela est d'abord une bonne chose, Parce que s'il n'y avait pas de justice dans ce monde, les plus puissants, les plus forts, ceux qui font du mal en cachette, pourraient se tirer d'affaire, vivre la bonne vie jusqu'à la fin de leur jour s'ils sont assez habiles pour se protéger, pour se cacher de la justice. Mais Dieu voit. Dieu voit ceux qui font le mal, même cachés. Dieu va les juger. Ça veut dire que le bien et le mal existent vraiment. Il y aura un jour une justice. Le bémol, c'est que nous serons tous jugés. Ça, c'est le Nouveau Testament qui l'affirme. Et on va voir dans la dernière partie de ce texte qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Mais déjà dans cette partie, entre 15 et 18, il y a une lueur d'espoir. Parce que on voit qu'il y a deux côtés de son action. Il y a exercé son jugement, il enfile la justice comme une cuirasse, et c'est pour ça qu'il dit au verset 18 qu'il va payer à chacun le salaire qu'il mérite, la colère et ses adversaires, le salaire qu'il mérite et ses ennemis, etc. Donc, Dieu intervient pour juger. Mais la deuxième partie de cette phrase, il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il va aussi proposer le moyen d'en sortir. Parce qu'il n'y a que par Dieu qu'il y a une sortie de ce problème du péché. Donc, je vais lire maintenant les derniers versets de ce chapitre, les versets 19 à 21. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Maintenant donc, il y a une solution pérenne au problème. Une partie de cette prophétie concerne le peuple d'Israël, le retour de l'exil, la protection que Dieu promet pour leur pays s'ils se repentent, ce qu'ils n'ont pas fait malheureusement suffisamment. Mais il y a aussi dans ces derniers chapitres d'Ésaïe un enseignement pérenne, individuel et collectif en tant que chrétien. Parce que nous lisons au verset 20, le libérateur viendra pour Sion. Libérateur, celui qui libère, c'est un mot très proche du mot rédempteur dans le Nouveau Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, la notion d'être racheté est là. Le peuple d'Israël était racheté de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Dans le Nouveau Testament, on est racheté de l'esclavage du péché. Et le mot fondamentalement veut dire libérer ou délivrer. L'esclave racheté était libre. Donc le libérateur viendra pour Sion, donc Sion qui est Jérusalem et qui représente le peuple d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, on voit que cela s'applique au monde entier. D'ailleurs, au verset 19, nous venons de lire, on craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Mais c'est pour qui? Pour qui? Pour ceux qui renoncent à leur révolte, dit le Seigneur, déclare l'Éternel, verset 20. Ils renoncent à leur révolte, ça veut dire ils se repentent, ils se tournent vers Dieu, humiliés, et Dieu vient pour les libérer, et on le sait par le Nouveau Testament que le Rédempteur a payé le prix fort, parce qu'il a libéré l'esclave en donnant sa propre vie, en versant son sang, pour que le châtiment que nous méritons ne tombe pas sur nous, mais sur lui. Et c'est par ces châtiments que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Et cette nouvelle alliance, dont parle le prophète Jérémie aussi, le verset 21 en parle, il y a une alliance avec eux où le Saint-Esprit viendra, il a venu de le Saint-Esprit qui va reposer sur le peuple. La loi sera intériorisée, il dit mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche. Et c'est ce que dit Jérémie dans sa prophétie sur la nouvelle alliance, au chapitre 31 de Jérémie. Au verset 33, il dit ceci. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et Jérémie continue, « Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et cette alliance sera éternelle. Une façon de le dire, c'est que c'est pas uniquement les personnes à qui cette promesse s'adresse, mais les enfants, les petits-enfants, maintenant et pour toujours. Donc les derniers mots de ce chapitre, « Maintenant et pour toujours ». Donc nous venons de passer en revue tout un processus spirituel, on va dire, qui est pertinent, qui était pertinent dans l'Ancien Testament et qui est tout aussi pertinent aujourd'hui parce qu'en fait, c'est la voie du salut. C'est la même chose pour celui qui reçoit le salut par la foi aujourd'hui. Les mêmes 6 étapes. D'abord, il y a la réalité objective que nous sommes tous séparés de Dieu. La deuxième chose, c'est de reconnaître que cela est à cause de notre péché. On commence à s'en rendre compte, troisième étape, parce que les gens deviennent conscients des effets, les mauvais effets, les conséquences du péché dans la société et dans leur vie. La vie ne se passe pas comme ils le voudraient. Mais c'est là où on commence la vraie démarche spirituelle. À ce moment-là, il faut que la personne concernée arrive à ce stade où elle reconnaît son propre péché. Donc on appelle ça la repentance. On change d'avis, le sens même de se repentir, on change de pensée et on reconnaît qu'on est soi-même pécheur. Dès qu'on reconnaît qu'on est pécheur, il y a la prise de conscience qu'on est pécheur devant un Dieu saint qui va me juger, que je peux être perdu. Et en dernier lieu, donc, en comprenant cela, on se tourne vers le Sauveur, le Rédempteur, le Libérateur. On se confie en lui parce que c'est la seule issue. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Jésus a dit qu'il faut la conviction du péché avant de se tourner vers lui, parce qu'il est le Sauveur. Et on ne va pas se tourner vers lui tant qu'on n'est pas conscient de son péché personnel. C'est du fait qu'on a, en fait, non pas péché contre les autres, mais péché contre Dieu. Qu'on l'a insulté, qu'on ne l'a pas respecté, et que c'est grave. Mais dès qu'on reconnaît son besoin de salut, Dieu nous accueille en Christ. Le salut est parfait, le pardon est total. Nous entrons dans cette nouvelle alliance éternelle et on va vivre avec l'Esprit et avec ses paroles jusqu'à la fin de nos jours et pour l'éternité auprès de lui. Donc voilà, ce chapitre qui est placé dans un contexte historique est un très bon résumé de la conversion, de comment on peut être réconcilié avec Dieu et vivre avec lui, pour lui, pendant notre vie et pour toute l'éternité. Que le Seigneur aide chacun à le comprendre et à l'annoncer autour de lui, à ceux qui se perdent et qui gémissent et qui grognent, comme Ésaïe dit, devant le poids du mal, pour que chacun se repente et se tourne vers le seul Seigneur et le seul Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ.